Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur Israël, sur le destin d'Israël, le futur de ce pays, avec l'aide de Frédéric Ancel. Frédéric Ancel qui est spécialiste de géopolitologie et qui enseigne cette discipline d'ailleurs et qui est aussi l'auteur d'un livre intitulé Les voies de la puissance. Donc on va parler d'Israël aujourd'hui parce que il y a donc l'échange de la trêve, la mini-trêve dont on va reparler, qui permet la libération d'un petit nombre d'otages par rapport au nombre total d'otages faits prisonniers par le Hamas ou d'autres organisations. Donc nous en dirons un mot, mais je voudrais aussi qu'on se concentre un petit peu sur Israël, parce que on est parti, donc le fait générateur de cette guerre, il faut toujours le rappeler, c'est le 7 octobre, c'est-à-dire c'est un raid du Hamas qui est destiné à exterminer le plus de juifs possible. Donc ça suscite aussitôt une émotion, certes, mais aussi un réflexe de base de la part d'un certain nombre de dirigeants, dont le président français, mais pas seulement, sur le thème « Israël a le droit de se défendre ». Et donc se déclenche une guerre, la guerre actuelle, et Israël répond par des raids, notamment sur Gaza, et une riposte qui est généralement considérée aujourd'hui comme disproportionnée. Disproportionnée parce que on annonce aujourd'hui à peu près 15 000 morts civils dans la bande de Gaza, y compris un certain nombre d'enfants et de femmes et d'enfants, bien sûr. Et donc l'image d'Israël se retrouve inversé et à nouveau dénoncé comme le fauteur de troubles de cette région. Donc on va passer en revue tout cela, Frédéric, mais peut-être commençons par ce que l'on peut dire sur cette première libération d'otages. Jusque-là, Israël considérait qu'une trêve serait signe pour le pays de défaite et que ce serait un avantage donné au Hamas puisque ça lui permettrait de reconstituer des forces. Là, c'est une mini-trêve, mais est-ce qu'on peut rester toujours sur cette analyse ?
Alors d'abord, les Israéliens ont absolument refusé le terme de cessez-le-feu, de ceasefire, qui, en droit international, a des implications juridiques, politiques et militaires. On parle effectivement, vous l'avez bien rappelé, de trêve ou de pause. Le Qatar, par exemple, parle de pause humanitaire. C'est intéressant, parce qu'une pause ou une trêve, c'est totalement subjectif. On peut en parler ici tant qu'on veut, ou dans les salons parisiens, mais ça n'a pas d'implication officielle. Donc symboliquement, pour les Israéliens, c'était important. Et c'était important pourquoi ? Vous l'avez finalement rappelé aussi. C'est parce que Netanyahou, depuis le massacre du 7 octobre, dès qu'il a annoncé Milchama, donc la guerre, c'est un mot très fort en hébreu, il a dit qu'il n'y aurait strictement aucune espèce de pause avant la destruction du Hamas. Bah si, il y en a une. Donc là, manifestement, c'est ce que j'appelle d'un point de vue géopolitique un semi-échec pour Israël, ce qui se passe en ce moment. Humanitairement, c'est absolument génial parce que plusieurs dizaines d'otages vont être libérés, mais d'un point de vue géopolitique, c'est un semi-échec. Je dis semi pourquoi ? Parce que le ratio, ce n'est pas un joli terme, je le mets entre guillemets, mais le ratio entre les prisonniers et les otages, israéliens et palestiniens, est beaucoup plus favorable cette fois-ci à Israël puisqu'il est exactement de 1 à 3. Je rappelle qu'il y a 5 ans, lorsque le soldat israélien capturé, 5 ans auparavant, Gilad Shalit avait été échangé, il avait été contre 1072 prisonniers palestiniens. Donc on passe de 1 à 3. Pour le reste, le Hamas va pouvoir, pendant 4 jours, reconstituer une partie en tout cas de ses forces, se réorganiser. Et donc, fondamentalement, je le répète, c'est plutôt quelque chose de négatif, encore une fois, d'un point de vue strictement géopolitique et militaire, pour l'État d'Israël.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je crois que Israël poursuivait 2 buts dans son opération. Le premier annoncé est la destruction du Hamas en général ou de la force militaire du Hamas. Et le deuxième, plus important d'une certaine façon, c'était de montrer qu'Israël restait en position dissuasive forte. C'est-à-dire que ce n'était pas un pays devenu faible. D'une certaine façon, l'opération du Hamas a déséquilibré la puissance politique régionale d'Israël. Et de ce point de vue, la maîtrise des opérations est une victoire pour Israël. Désormais, il faut compter, il n'est pas facile, si vous voulez, de détruire Israël. La deuxième constatation importante à mes yeux, c'est la négociation elle-même, parce que le New York Times a publié tout à fait en détail la façon dont les Américains ont procédé. C'est une négociation entre Biden et le Qatari. Et au moins deux fois, Biden a dit « enough is enough ». Deux fois, il a renvoyé dans leur but, si j'ose dire, le Hamas qui demandait davantage de jours, davantage de ceci, davantage de cela. Ce qui montre que le Hamas voulait vraiment négocier, voulait vraiment cette interruption. Et quand on regarde de jour en jour l'analyse de la négociation, on voit qu'il y a une très grande qualité de Biden. Il a pris lui-même, il y avait deux personnes du Conseil de sécurité, Israël avait désigné le chef du Mossad comme interlocuteur du chef des services américains, et la liaison était très étroite, Israël a montré ce qu'elle ne voulait pas, et Biden a imposé, je crois, le résultat. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que ce n'est pas assez souligné. C'est un succès américain. Les États-Unis ont obtenu très exactement ce qu'ils souhaitaient. Maintenant, après, viennent les grandes inconnues. Il y a l'inconnu militaire, c'est-à-dire Israël va poursuivre son action. Mais quelles sont ses chances de réussite? C'est un terrain très difficile, si vous voulez. Et le deuxième, c'est l'inconnu politique. C'est ensuite, pour qu'il y ait un État palestinien, il faut qu'il y ait des Palestiniens susceptibles de se gouverner et susceptibles d'assurer la sécurité d'Israël.
Alors, donc vous disiez, Jean-Claude, succès américain, on peut dire aussi succès qatari, Frédéric Ancel.
Oui, alors d'abord je rebondis sur le succès américain, avec lequel je suis totalement d'accord, c'est même l'objet de ma prochaine chronique dans l'Express, pour ne pas la nommer, un sans-faute de Biden. Je pense d'ailleurs qu'à certains égards, il le fait aussi sur l'Ukraine et Taïwan, mais ce sont d'autres sujets. Oui, bien sûr, le retour américain, je dis retour entre guillemets, parce que je n'ai absolument jamais cru à un départ américain du Moyen-Orient. On voit bien qu'aujourd'hui, les seuls sur le plan politique et militaire, bien évidemment, à pouvoir peser sur un certain nombre de décisions au Moyen-Orient, c'est évidemment Washington. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Le succès du Qatar, oui, le Qatar est en train de nous soigner du mal qu'il nous le fait. Parce qu'en réalité, depuis un peu plus de 20 ans, c'est le Qatar qui soutient très grassement d'ailleurs, et qui accueille encore plus grassement le Hamas. Entre parenthèses.
Pas seulement le Hamas.
Pas seulement le Hamas. Un certain nombre de groupes frères musulmans. Le Qatar a tenté, malheureusement, avec un certain succès pendant le printemps arabe, de saper le pouvoir d'un certain nombre de régimes arabes modérés, via notamment Al Jazeera et d'autres officines que je considère comme étant des officines de propagande. Et donc, aujourd'hui, le Qatar, oui. Enfin, alors, il triomphe dans une certaine mesure, parce qu'en réalité, son instrument risque d'être cassé. Parce que si les Israéliens vont jusqu'au bout de la démilitarisation du Hamas, alors l'idéologie frère elle restera. Sauf que au Moyen-Orient, et je le rappelle souvent, on n'est pas au Benelux ou en Scandinavie. Si vous perdez votre capacité militaire, vous perdez une grande partie de votre capacité politique. Bon, et donc c'est ça aujourd'hui qu'espère Israël avec la destruction au moins militaire du Hamas.
Alors cette destruction, elle est recherchée à travers une campagne de bombardement intense qui a fait d'une partie de la ville de Gaza un champ de ruines, qui n'a rien à envier à la ruine de Grozny, à la ruine de Mariupol, enfin, de ce que l'on voit de la part de l'armée russe en Ukraine. Et donc, une émotion planétaire sur ce sujet. Est-ce qu'Israël peut perdurer ou peut persister dans cette stratégie militaire et en payer un prix de plus en plus élevé en termes peut-être d'isolement diplomatique et politique et en termes d'image au niveau planétaire, encore une fois.
Ah, moi, je le crois d'abord parce que pour Israël, le choix, il est perdant-perdant. Si il ne riposte pas de manière à créer ou à recréer la dissuasion dont parlait à juste titre il y a un instant Jean-Claude Casanova, je pense que là, il y aurait pour Israël une véritable catastrophe à venir. Israël n'a pas le choix, contrairement par exemple aux États-Unis d'après le 11 septembre, où ni le Mexique ni le Canada ne pouvaient n'envisageaient d'attaquer les États-Unis. Après le Bataclan, ni l'Allemagne ni l'Italie n'envisagent d'attaquer la France. Là, après le massacre du 7 octobre, ils restent autour d'Israël et parfois à quelques encablures, quelques centaines de mètres, des gens qui veulent l'assassiner. Donc, recréer de la crédibilité militaire, c'était absolument fondamental, quitte à se mettre effectivement à dos un certain nombre d'opinions publiques. Et là, le petit Ancel intervient et il insiste sur quelque chose que je dis d'ailleurs dans mes modestes voix de la puissance, que je dis depuis très longtemps. Une opinion publique n'a pas de chasseur-bombardier. Une opinion publique n'a pas de PIB. Une opinion publique, elle est fluctuante. Et j'ajoute un point important. Lorsqu'on évoque le Sud global, je rappelle quand même que l'Inde est aujourd'hui un État extrêmement puissant, que c'est la cinquième économie mondiale, c'est un État doté, et que il fait partie d'ailleurs des BRICS. L'Inde soutient Israël, en dépit de la présence de 200 millions de musulmans en son sein. Au sein du monde arabe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, c'est quand même pas rien, surtout pour le premier pays, ont soutenu Israël, ont condamné le Hamas, et ne reviennent pas sur les accords d'Abraham. D'ailleurs, le Maroc non plus ne revient pas dessus. Et enfin, si on veut vraiment parler chiffres, et je le dis vraiment en deux mots, enfin en deux chiffres, il y a dans l'ensemble du monde arabe environ 400 millions de citoyens, environ 200 millions d'adultes. Combien ont manifesté en 6 semaines de bombardements massifs israéliens sur Gaza? Entre 700 et 800 000. Enfin, il faut être sérieux. Moi, je veux bien qu'on parle d'une ébullition, ou en tout cas d'une négativité très forte vis-à-vis d'Israël dans les opinions publiques. Pour l'instant, je ne constate pas, en tout cas, que ces opinions publiques aient fait basculer des régimes politiques ou des gouvernements au pouvoir en défaveur d'Israël.
Jean-Claude ?
Oui, dans la bataille de l'opinion, d'abord Israël est également présent dans cette bataille de l'opinion et trouve des avocats, et d'autre part, il faut bien voir, et ce qui me choque un peu dans l'attendrissement à l'égard de la population de Gaza, c'est que le principal, le co-responsable, si j'ose dire, de la mort de civils ou d'enfants ou de femmes à Gaza est autant le Hamas qu'Israël, parce que on montrait des photos où des soldats du Hamas pour aller d'un point de refuge à un autre vont en tenant dans leurs mains des enfants de 4 à 5 ans de façon à ce que les avions israéliens ne tirent pas, et il y a une utilisation systématique par le Hamas de la population de Gaza. Ils s'installent dans les hôpitaux, ils construisent des corridors sous les immeubles, etc. La population est utilisée, la population de Gaza est utilisée par le Hamas comme une arme. Et donc, il y a autant de responsabilités dans le drame qui se produit vis-à-vis de la population civile, de la population innocente, pourrait-on dire, de Gaza. Il y a autant de responsabilités du côté du Hamas que du côté d'Israël. Et on ne peut pas condamner Israël seul sans condamner en même temps le Hamas.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Ancel, qui enseigne la géopolitique, et donc nous parlons d'Israël et de son destin. Nous allons venir d'ailleurs à la situation politique en Israël, mais auparavant, Jean-Claude évoquait tout à l'heure le fait que les miliciens du Hamas se servent au fond d'une partie de la population comme d'un bouclier humain. Est-ce qu'il n'y a pas là, à nouveau, une défaite du renseignement israélien, comme il y a eu une défaite du renseignement israélien le 7 octobre, avec l'invasion, la percée de ces miliciens dans les kibboutz israéliens, sur l'idée que sous l'hôpital principal de Gaza, il y avait ou il y aurait eu le centre de commandement militaire du Hamas. Or, les soldats israéliens qui ont pénétré dans cette zone ont montré aux caméras du monde entier, ici des Kalachnikovs, là des grenades, mais rien qui ressemble vraiment à ce qui était attendu, c'est-à-dire quelque chose qui puisse ressembler à un état-major, à un centre de commandement militaire. Donc là encore, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse israélienne qui du coup se retourne contre eux, parce qu'on se dit, mais vous voyez bien, c'est quand même largement de la propagande, Frédéric Ancel.
Si, mais c'est une faiblesse fondamentalement politique, parce que vous savez, les renseignements militaires, ce sont des femmes et des hommes à qui on donne des ordres et des budgets. Donc à partir du moment où les gouvernements successifs Netanyahou, qui est au pouvoir sans discontinuer depuis 2009 quand même, à une année près, ont décidé très manifestement de considérer que le Hamas n'aurait pas la détermination l'intelligence, la cruauté de faire ce qu'il ferait un 7 octobre 2023, préférant se préoccuper d'autres fronts, d'autres secteurs, peut-être tout aussi d'ailleurs importants et dangereux, hein, bah, à partir de ce moment-là, on ne peut pas se contenter de critiquer les renseignements militaires israéliens. Mais bien évidemment qu'il y a une faillite, et elle est beaucoup plus grave que celle qui a mené au premier jour terrible de la guerre du Kippour il y a 50 ans, presque jour pour jour, parce que là, au fond, il n'y avait eu, entre guillemets, que des victimes militaires, puisque c'était un choc char contre char, avion contre avion, etc. Bon, sur des territoires extrêmement peu peuplés, le Sinaï et le Golan. Là, évidemment, il en va tout autrement, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une commission d'enquête, la commission d'enquête qui se mettra sur pied, alors pour le coup, lorsqu'il y aura un véritable cessez-le-feu, elle fera très immédiatement chuter ce gouvernement, parce que la responsabilité de Netanyahou et d'un certain nombre de ses ministres, plus incompétents les uns que les autres, elle est absolument flagrante. D'ailleurs, ça se retrouve dans les enquêtes d'opinion depuis le 7 octobre, puisque on atteint des chiffres qui dépassent 75-81% d'opinion défavorable, ce qui est absolument unique dans l'histoire d'Israël depuis 48.
Et alors donc, on attend qu'il y ait une issue politique, et pour le moment, la guerre empêche cette issue politique. Est-ce qu'il peut exister, dans une échéance suffisamment rapide, une alternative à un homme qui se maintient au pouvoir depuis si longtemps, qui a fait l'alliance avec l'extrême droite, laquelle extrême droite a pour programme l'annexion de la Cisjordanie, donc d'aller encore un peu plus loin dans l'escalade, Frédéric.
Non seulement de la Cisjordanie, mais de Gaza. Parce que hier encore, une ministre d'extrême droite disait mais la solution, c'est de revenir à Gaza et de recréer des implantations. Alors, je vous rassure, elle est quand même extraordinairement minoritaire en Israël, ça dépasse pas 5-6% de l'opinion, ce genre de posture. Mais malheureusement, ça existe. Alors, Israël est une authentique démocratie, vos auditeurs le savent. Le 1er novembre 2022, Netanyahou a emporté à la tête du Likoud le maximum du suffrage exprimé, donc Netanyahou, il va tomber. Mais ça ne signifie pas que la Knesset va s'auto-dissoudre. Autrement dit, il faudra fonctionner dans les prochains mois avec vraisemblablement cette Knesset-là. Or, cette Knesset-là, elle peut parfaitement être dirigée par une coalition centriste. La gauche du Likoud, qui en a assez de Netanyahou, mais qui n'osait pas le dire jusqu'à présent, parce que Netanyahou était tout puissant, la gauche du Likoud, plus M. Gantz, qui est l'ancien chef d'état-major et qui a rejoint d'ailleurs le gouvernement d'Union Nationale, puisque lui au moins, il est un petit peu compétent, qui est un centriste bon teint. Et surtout, Yair Lapid, qui dirige aujourd'hui l'opposition, en réalité, en Israël, qui est de centre-gauche très laïque, donc très anti-religieux, qui s'entend bien avec Gantz. Bref, tout cela peut constituer, avec les résidus du Parti Travailliste un peu plus à gauche encore, et un ou deux autres partis d'appoint, peut parfaitement, mathématiquement, constituer la prochaine coalition.
À la condition qu'il y ait des élections. Pour le moment, tant que les armes parlent, on voit mal qu'il puisse y avoir une issue électorale. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'être bloqué ou figé dans cette situation un temps très dommageable?
Alors, pardon, cher Jean-Marie, je me suis sûrement mal exprimé. On n'a pas besoin de nouvelles élections, parce que cette Knesset-là, elle est ce qu'elle est. Mais elle n'est pas majoritairement à l'extrême droite. Je veux dire par là qu'à la condition que la gauche du Likoud rejoigne une coalition centrale, triste, on a un Yair Lapid aurait, comme d'ailleurs il y a un an et demi, la majorité suffisante, enfin requise, pour pouvoir créer un nouveau gouvernement.
Jean-Claude Casanova.
Oui, donc je voudrais revenir sur l'hôpital, parce que malgré tout, d'une part on voit dans la négociation que le Hamas tient à l'hôpital, or malgré tout ce n'est pas l'humanitarisme qui caractérise cette organisation, et d'autre part on a eu des photos où on voit que par l'hôpital rentrent les otages. Autrement dit, l'hôpital offre un accès au réseau de souterrains, si vous voulez, au réseau de galeries, qui sont le lieu fondamental d'implantation du Hamas. Le Hamas est sous terre, si j'ose dire. Et pour être sous terre, il faut des sorties. Et ils ont évidemment choisi les sorties dans les endroits qui sont le plus protégés, les églises, les hôpitaux et les écoles. Mais pour revenir à la situation politique, je crois que Netanyahou est mort politiquement. Sa politique a échoué et sa politique de préservation du Hamas d'une certaine façon et sa politique de sécurité. Et donc il sera remplacé d'une façon ou d'une autre, soit à l'intérieur de cette Knesset, soit après des élections. Mais le problème très difficile que va avoir Israël, c'est, et là les États-Unis, j'espère, et les autres puissances arabes modérées pourront jouer un grand rôle, c'est-à-dire de constituer la phase intermédiaire, parce que entre le désert de la bande de Gaza, où on ne voit pas pas sortir un gouvernement sur la bande de Gaza. Et l'autorité palestinienne est extrêmement faible. Il faut, d'une part, donner des garanties aux Palestiniens, qui sont des garanties de territoire, et donc résoudre le problème des colonies par l'amputation d'une partie des colonies, ce qui sera difficile, on l'a même vu pour Gaza. Mais Israël, je crois, sera déterminé à le faire. Mais il faudra trouver des interlocuteurs, c'est-à-dire constituer dans l'ensemble palestinien une autorité politique qui puisse être l'interlocuteur et le garant de la paix dans cette zone. Et ce qu'il faut espérer, comme souvent dans les moments historiques, c'est que le drame de la guerre crée après une volonté de paix plus affirmée et plus réaliste.
Frédéric oui, on l'a vu d'ailleurs il y a 50 ans avec la guerre du Kippour. Hein. C'est de l'électrochoc de cette guerre est née la paix sans doute, ou l'une des paix en tout cas, l'un des traités de paix les plus solides, les plus pérennes de tout le Moyen-Orient. C'était évidemment Camp David. Alors évidemment, c'était un peu plus facile parce que c'était entre deux États. Et Sadat avait déjà décidé de faire la guerre pour obtenir la paix. Bon, tout ça est extrêmement connu. Mais enfin, à l'époque, c'était pas avant la guerre du Kippour. Personne n'était très optimiste sur la possibilité d'un déblocage. Donc je serais d'accord avec ce qui a été dit. Et j'ajoute que l'alternative, à mon avis, absolument unique à Gaza, c'est l'autorité palestinienne. Vous n'imaginez pas des soldats arabes venir à Gaza en lieu et place de soldats palestiniens. Ils repartiraient rapidement dans des cercueils et ce serait encore plus désastreux pour les gouvernements arabes modérés, déjà très fébriles par rapport à la situation, que de voir revenir leurs soldats dans ces cercueils. Il n'y aura pas non plus de soldats occidentaux. On n'a rien à faire là-bas. Aucun gouvernement occidental ne va envoyer, au casse-pipe à Gaza des soldats sans qu'il y ait un horizon, une perspective politique. Et c'est vrai aussi de casques bleus. Les casques bleus, ce ne sont pas des martiens. Ce sont des soldats envoyés par des gouvernements à un moment M qui eux-mêmes ont la garantie d'une protection à minima de leurs soldats. Donc ça ne peut être que l'autorité palestinienne. Vous avez tout à fait raison de rappeler que pour l'instant, elle est faible. D'ailleurs, elle a été sciemment affaiblie par Netanyahou. Écoutez, 70 000 fusils supplémentaires donnés généreusement par les Américains ou les Européens, avec des financements de reconstruction rapide dans la bande de Gaza pour que la population sente qu'avec l'autorité palestinienne, au fond, on peut obtenir des choses, davantage de choses qu'avec ces fanatiques absolus du Hamas qui les a pris en otage. Je pense que c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile. Je pense que c'est jouable. Le jour d'après, avec un, démilitarisation, pour l'essentiel du Hamas. 2, retour de l'autorité palestinienne à Gaza. 3, et ça c'est acquis, on l'a dit, chute de ce gouvernement israélien. La concomitance, c'est pas de la pensée magique, je crois, hein. La concomitance de ces trois possibilités, je le disais encore à mes étudiants de Sciences Po la semaine dernière, et offre toutes les possibilités. Tout redevient possible à ces trois conditions.
Mais en attendant, il va falloir subir à nouveau la guerre et ses destructions et ses victimes. Et ça, pour une période totalement indéterminée, parce qu'il n'y a pas, dans la trêve actuelle, il n'y a pas de perspective de prolongation ou de quelque chose qui soit plus pérenne.
Je pense que les Israéliens ne s'arrêteront qu'après une période plus ou moins longue, d'au moins quelques semaines, sans tir de missile du Hamas et sans pénétration d'un terroriste en Israël. Je pense que le but de guerre d'Israël, c'est la destruction militaire du Hamas. Sauf qu'il n'y a pas de destruction, il n'y a que des preuves de destruction. Et je pense que là, on a deux buts de guerre extrêmement objectifs, qui sont, me semble-t-il, atteignables.
Juste avant de terminer cette conversation, Frédéric Ancel, Jean-Claude Casanova, est-ce que dire de la position française ? La position française, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Macron, qui est réputé avoir atténué ou modifié, voire son approche. Est-ce que c'est une modification ou est-ce que c'est resté au fond ? Parce que on lui oppose souvent d'ailleurs une notion d'équilibre, lequel aurait été inventé par une diplomatie dite gaulo-mitterrandienne, juxtaposition que personnellement je n'ai jamais compris, mais Jean-Claude Casanova.
Non, je crois pas. Je crois que Macron a soutenu la défense d'Israël et l'opération militaire d'Israël et en même temps, il insiste sur la modération et sur la nécessité d'aller vite. Je pense à ce que Napoléon III avait dit à Cavour, je ne sais pas pourquoi il l'avait dit en italien, parce que Cavour parlait français, mais il l'avait dit en italien, fate presto, faites mais faites vite. Évidemment, ce qui est souhaitable, c'est que l'opération militaire israélienne soit le plus rapide et le plus efficace possible, et qu'elle ait le moindre coût humanitaire possible. Et on ne peut pas interpréter la position du président de la République à partir des positions humanitaires normales qu'il prend à l'égard des victimes civiles et de Gaza. Ce n'est pas la finalité de sa politique. La finalité de sa politique, c'est que Israël opère son opération militaire et sa dissuasion, et qu'on revienne ensuite à une situation. Là, il y a un grand progrès à faire, et le président de la République a raison. Je crois que il faut accepter l'idée de deux États. C'est une idée extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais je n'en vois pas d'autre. Je vois pas d'autre solution. L'expulsion des populations arabes n'est pas possible, n'est pas souhaitable, et n'est pas possible. Et donc, il n'y a que l'État unique n'est pas une solution. Et donc, il n'y a que la solution des deux États. Deux États, ça veut dire qu'il faut déterminer des frontières, des populations et la sécurité. Il faut deux États pacifiques, l'un à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans l'État palestinien, il y ait l'idée que Israël est provisoire et que Israël disparaîtra. Dans l'idée même de camps de réfugiés, d'ailleurs, qui est une idée insupportable, il y a l'idée qu'ils sont réfugiés et qu'ils vont revenir. Donc, ça veut dire que la situation d'Israël est précaire. Et bien ça, je crois, et j'espère que dans les négociations futures, on supprimera les camps de réfugiés, que les réfugiés travailleront dans les nombreux pays arabes qui existent, où il y a des emplois, puisqu'ils font venir des travailleurs d'Asie, ils peuvent faire venir des travailleurs palestiniens, et d'une certaine façon, il y aura une véritable paix entre Israël et son environnement musulman.
Frédéric.
Ah oui, je considère que la position de la France n'a absolument jamais changé depuis 67, entre parenthèses, c'est la position onusienne. Peut-être un petit bémol, elle a peut-être été dite ces dernières années avec moins de force, peut-être, ou avec un caractère moins prioritaire que naguère. Pourquoi ? Parce que le monde arabe, sur le plan géopolitique, sur ces 20 dernières années, a perdu en importance, parce qu'on a la crise ukrainienne qui se trouve sur le sol européen, parce que les enjeux de la Chine dans l'Indo-Pacifique sont absolument gigantesques, etc. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, oui, mais quand même, depuis 3-4 présidences, on parle un peu moins de ce conflit. Peut-être, c'est sans doute pas faux, mais fondamentalement, la position de la France n'a effectivement absolument jamais changé. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron a eu raison de rappeler qu'Israël, en droit international, avait le droit de se défendre, qu'il s'était agi d'un gigantesque pogrom, enfin il employait des termes très forts, comme celui, je crois, de massacre le 7 octobre, c'est parfaitement exact, et il a raison de rappeler qu'à terme, la seule solution politique possible, c'est effectivement celle des deux États. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Voilà, nous allons terminer sur ce mot de la fin de Frédéric Ancel. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit Les voies de la puissance
chez Odile Jacob
et que c'est un livre tout à fait essentiel aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'actualité. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous en remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.